Amen. Alléluia, que le Seigneur est bon et merveilleux. Il y a des années de ça, j'étais encore au collège et notre collège avait l'habitude d'organiser des courses, des crosses. Et cette année-là, nous étions à peu près 150, je ne me rappelle plus exactement les chiffres du nombre que nous étions, mais nous étions plusieurs collèges réunis. Et il y avait une course qui était organisée, un cross, et au travers d'un beau parcours avec des montées, des descentes, des chemins de terre, tout ce qu'il faut pour faire un beau cross. Et vraiment, je me sentais bien, je n'étais pas mauvais en plus dans cette discipline. Et je me rappelle de cette course très bien, je vais vous la décrire pendant quelques instants. On démarre la course, parfait, plus d'une centaine à démarrer, puis je me sentais bien, vraiment. Et je commence à courir, j'avance assez rapidement, je dépasse certains de mes concurrents, parce que c'est une course, je dépasse certains de mes concurrents, j'arrive, et puis à un moment donné, au fur et à mesure de la course, on se retrouve à 4-5 et on continue à courir ensemble. Et puis à la fin de course, les 4 ou 5 commencent à se dissocier, les meilleurs commencent à accélérer, ils commencent à partir. Moi, je crois que j'étais quatrième dans ce groupe-là. Et je commence à les suivre et j'arrive près de la ligne d'arrivée, je vois les quatre, ceux qui sont avant moi, arriver, ils passent la ligne d'arrivée. Moi, j'arrive derrière. Et puis, au dernier moment, avant d'arriver sur la ligne d'arrivée, je jette un coup d'œil en arrière, je regarde ce qui se passe pour voir si ceux qui me poursuivent sont là, pour me rassurer et me dire, c'est bon, Pierre, tu vas y arriver, tranquille. Et je regarde en arrière. Et au moment où je regarde en arrière, je reviens sur le devant, mais je ne me suis pas aperçu d'une chose, c'est que je suis en train de louper le couloir d'arrivée. Et donc, je regarde en arrière, je regarde ce qui se passe. Je me dis, c'est bon, j'ai le temps et tout. J'arrive, seulement je loupe le couloir d'arrivée et je m'arrête au niveau de la ligne d'arrivée sans la traverser. Bien sûr, fatigué et essoufflé, je me relève et je me rends compte que je n'ai pas traversé la ligne d'arrivée. Par contre, ceux qui sont derrière moi, eux, ils s'engouffrent dans le couloir de l'arrivée. J'étais quatrième, j'ai fini 30e. Parce que le temps que je me réveille et que je comprenne que je n'ai pas franchi la ligne d'arrivée, oui, j'ai fait marche arrière, j'ai repris le couloir, seulement dans le couloir, ils étaient plus 3 ou 4, ils étaient 25, 30. Quelle déception. Quelle déception ce jour-là. Je me rappelle même en avoir pleuré parce que vous faites une course et puis vous êtes bien, vous sentez que vous êtes 4e et vous finissez 30e. Seigneur. Cette histoire n'est pas sans me faire penser à une histoire de l'apôtre Paul. Dans Philippiens chapitre 3, versets 13 et 14, Paul parle de quelque chose, d'une course. Souvent, Paul fait allusion aux courses. Souvent, Paul fait allusion et fait un parallèle entre ce que l'on peut vivre dans notre foi, dans notre marche avec Dieu, et ce que Paul voyait dans les stades, lorsqu'il voyait ses coureurs, ses sportifs faire les courses. Et vraiment, Philippiens chapitre 3, versets 13-14, est le reflet de ce que j'ai pu vivre et peut-être un enseignement pour nous ce matin. Philippiens chapitre 3, versets 13 et 14, dit simplement ceci, « Mes frères, mes sœurs, non pas que j'ai encore saisi ou remporté la course, mais je fais une chose. Je fais une chose importante, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. » Je cours. Je cours vers le but. Je cours pour remporter le prix de la vocation céleste à laquelle Dieu m'appelle en Jésus-Christ. Vous voulez bien le relire avec moi ? Mes frères, mes sœurs, non pas que j'ai remporté la course ou remporté le prix encore, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière, et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Je cours. Et vraiment, ce matin, j'aimerais partager avec vous cette pensée. Et je disais tout à l'heure simplement, et si vous lisez quelques versets plus loin, verset 17, Paul dit ceci, « Soyez mes imitateurs ». Alors soyons les imitateurs de Paul. Soyons les imitateurs de Paul qui nous invite à oublier ce qui est en arrière, à nous porter vers ce qui est en avant et de courir après le prix. Et vraiment, justement, c'est très intéressant de pouvoir considérer les paroles même et de les saisir dans nos propres vies. Considérer ce que Paul a voulu dire. Et c'est vrai que le premier mot qui me vient à l'esprit, qui m'a interpellé lorsque j'étudiais ce texte, c'est « oubliant ce qui est en arrière ». Qu'est-ce que tu as bien voulu dire, Paul, par « oublier ce qui est en arrière » ? S'il y a bien une chose qui est claire, il est vraiment difficile d'oublier. Je ne sais pas si vous avez vécu peut-être des choses difficiles ou des événements particuliers. Bien souvent, les bons moments, par moments, nous passent à la trappe dans nos souvenirs. Certains bons moments restent marqués, en effet, mais ce qui nous marque le plus, ce sont peut-être des temps difficiles, ce sont peut-être des épreuves ou des difficultés, ce sont peut-être des conflits, des confrontations, peut-être des fois où, comme moi, lorsque j'ai loupé ma course, ça m'a marqué. Des événements qui, peut-être, qu'on aimerait tout simplement oublier. Et vous avez fait peut-être ce constat que j'ai fait moi-même, qu'il est difficile d'oublier. Qu'il est difficile d'oublier. Et quand Paul nous dit d'oublier, Seigneur, c'est pas comme si on avait un interrupteur sous la main, clac, clac, switch off, et au moment où on appuie off, nos souvenirs s'effacent. Non, c'est bien plus compliqué que ça. Et qui plus est, lorsqu'on lit le texte, et peut-être je vous inviterai à le faire, Philippiens chapitre 3, quelques versets avant, lorsque nous lisons le texte, nous sommes surpris de voir ce Paul qui nous dit d'oublier se mettre à nous rappeler son passé. Oh, Paul, qu'est-ce que tu fais ? D'un côté, tu nous dis d'oublier, et puis de l'autre, tu prends plaisir à nous rappeler les choses. Regardez, tout simplement, et vous allez faire le constat avec moi. Au verset 4 ou au verset 5, « Moi, circoncis, le huitième jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable, à l'égard de la justice et de la loi. » Paul rentre dans les détails de son passé disant qu'il est lui-même fils d'hébreu, lui-même pharisien, enseigné comme pharisien. Et dans bien d'autres détails, il précise d'autres choses, qu'il a été enseigné au pied de Gamaliel, qu'il a fait une formation particulière, qu'il est lui-même romain. Il prend le temps d'expliquer les choses et rentrer dans le détail de son passé. Et quelques versets plus loin, Paul nous dit l'inverse, complètement le contraire. Oubliez ce qui est en arrière. Oh Paul, que fais-tu ? Qu'est-ce qui se passe ? Tu nous dis d'oublier et en même temps, dans le même passage, toi, t'as rien oublié, Paul. Tu sais, tout à l'heure, c'est un petit peu l'hôpital qui se fout de la charité. Excusez-moi. C'est peut-être, Paul est peut-être du genre à dire et à faire tout simplement la chose suivante. Faites ce que je dis et ne faites pas ce que je fais. La vérité, c'est que Paul veut nous amener à comprendre autre chose. Parce que vous en convenez comme moi, oubliez combien c'est difficile. On n'est pas en maîtrise de notre mémoire. Je sais et je connais, peut-être vous êtes au courant, certains mécanismes psychologiques se mettent en place par moments pour nous faire oublier les choses. Mais dans la grande généralité des choses et des cas, tout reste gravé. Alors qu'est-ce que Paul a voulu dire par oublier ? On pourrait peut-être penser qu'oublier est associé au fait de fuir, ce qu'on appelle la fuite en avant. Finalement, on pourrait dire quelque part qu'en fuyant, on pourrait peut-être quelque part se mettre à distance de nos souvenirs, à distance de ce qui nous a marqué, à distance de ce qui nous a posé problème. Parce que voyez-vous, l'être humain est fait de cette façon-là. Quand quelque chose nous a marqué, quand quelque chose nous a blessé, quand quelque chose peut-être même dont on a honte, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on va mettre en avant dans nos vies. Ce n'est pas forcément quelque chose qu'on va revendiquer. Ah tiens, il y a pas mal de temps, j'ai une honte gigantesque. Non, généralement, qu'est-ce qu'on fait ? On nie. Ou on essaie d'éviter d'en parler. Ou on essaie de mettre cela en avant. Et vous savez, ce qu'il y a de particulier, c'est que Paul n'est pas non plus dans une fuite en avant par rapport à son passé. Puisque comme il est décrit dans ce passage-là, Paul n'oublie aucun détail de son passé. Oh oui, hébreu, oui, benjamite, oui, pharisien. Et quel pharisien, persécutant même l'Église. S'il y a bien un détail que j'aurais omis, c'est celui-là. Seigneur, persécutez l'Église. Mais voyez, Paul n'oublie rien. Et même, indiquer dans sa lettre ce qu'il a été. Paul ne passe à côté d'aucun détail de son passé. Alors, que dire? Qu'est-ce que Paul a voulu dire? Est-ce que fuir est la solution? Je ne crois pas. Et je ne crois pas que c'est ce que Paul a voulu dire d'ailleurs. La plupart, et même des exemples bibliques, nous rappellent ça. Permettez-moi de vous mettre à l'esprit deux exemples qui me reviennent. Lorsqu'on prend l'exemple de Joseph, une fois qu'il a été vendu par ses frères, vendu pour être et devenir esclave, éloigné de sa famille puisqu'il était dans Canaan, et puis transporté en Égypte, on se rend compte que 20 ans plus tard, Joseph, son souvenir est toujours aussi vivace. La douleur est encore là. On pourrait penser peut-être que le temps efface, que le temps amoindrit les choses. Par rapport à certaines choses, oui, c'est le cas, mais de manière générale, lorsque je regarde l'exemple de Joseph, 20 ans plus tard, lorsqu'il va se retrouver devant son frère Benjamin, toute la douleur qu'il a enfouie pendant ces vingtaines d'années, tout ce qu'il a accumulé au fond de lui, la séparation, le mépris de ses frères, le rejet, la tentative de meurtre, tout ce qui est associé à sa vie va rejaillir en voyant son frère. Le souvenir, la douleur va émerger en lui, au point qu'en voyant son frère Benjamin, la Bible dit que ses entrailles vont être remuées, au point qu'il ne pourra rester en présence de ses frères. Et la Bible dit que cet homme va faire, Joseph va faire une chose, il va se retirer, aller dans sa chambre pour pleurer. Tellement là, les choses sont remontées à lui, tout ce qu'il a enfoui. Non, le temps n'a rien arrêté en lui. Un autre passage. Jacob. On aime beaucoup Jacob. Qu'est-ce qui nous ressemble? Mais regardez, lorsque Jacob va voler la bénédiction de son frère, sa douce maman va lui conseiller, « Mon cher petit enfant, mon chéri d'amour, fuis devant ton frère, il veut te tuer. » Qu'est-ce que va faire Jacob? Il ne va pas se faire prier. Il va partir, il va fuir. Et pendant des années, Jacob va vivre avec un contentieux avec son frère. Il va construire sa vie, il va se marier, il va avoir des enfants, il va multiplier ses troupeaux jusqu'au jour où il va décider de rentrer en Canaan. Et vous savez, son frère l'attend. Et lui-même le sait. Par contre, ce qu'il ne sait pas en effet, et pour Jacob c'est vraiment le cas, un travail va se faire dans le cœur de Jacob. De son frère Ésaü. Un travail magnifique va se faire, tant et si bien que quand Jacob va rencontrer son frère Ésaü, Ésaü a changé. Il va dire, mais le Seigneur m'a béni et je suis riche, je suis béni. Les deux frères vont se retrouver, vont s'embrasser, vont même pleurer ensemble. Quelle réconciliation magnifique! Mais avant que tout cela ne se passe, Jacob, il va marronner un petit moment. Lorsqu'il en approche, il va mettre toute une stratégie en place, il va envoyer ses femmes, il va envoyer ses troupeaux, il va faire en sorte de... Si mon frère vous demande c'est pourquoi, vous lui direz que c'est un présent pour lui, pour mon Seigneur. Jacob, il n'est pas bien du tout. Il n'est pas bien du tout, il n'est pas en paix du tout. Avec ce qu'il a laissé des années en lui et dans son cœur, rien n'a changé. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas en lui, il y a un problème qu'il n'a pas réglé. Et au lieu de venir en paix, retourner en paix chez lui, il a la peur au ventre de ce que son frère va faire. D'autant qu'il n'y a rien pour le rassurer en soi, hein, parce que son frère l'attend avec une centaine de gars là. Et il se dit quelque part, waouh, 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 il y a le comité d'accueil. Oui. Oui, exactement. Heureusement pour Jacob, le temps va faire son travail dans le cœur d'Ésaü. Et quand les deux frères vont se retrouver, il va se passer quelque chose d'incroyable. Ils vont se réconcilier. Mais pour autant, Jacob a fui et a maintenu sur sa vie un problème pendant des années et des années et des années. Et il y a une chose remarquable, c'est que lorsque Jacob va affronter Dieu, vous connaissez ce passage, il va se confronter à Dieu, Dieu va lui donner un nom, va lui donner un nouveau nom, Israël. Et c'est particulier parce que j'ai lu le texte, mais jamais Jacob, en tout cas, ne va se faire appeler Israël tant qu'il ne va pas avoir réglé le problème avec son frère. comme si quelque part, pour entrer dans le plan de Dieu, dans l'Israël que Dieu a préparé pour Jacob, Jacob était maintenu par son passé en arrière, qui l'empêchait d'aller de l'avant, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est devant. Jacob ne pouvait pas le faire parce qu'il était encore lié par son passé. Et c'est une fois la rencontre faite avec son frère, c'est une fois que le problème est réglé, que les choses se mettent en place et qu'il est en paix avec lui. C'est alors qu'il va bâtir un autel où il va s'appeler lui-même Israël. Il y a des années de ça, j'avais un de mes amis d'école du dimanche, on a fréquenté l'école du dimanche ensemble et on a grandi plus ou moins ensemble et on n'a pas eu les mêmes trajectoires. Par la grâce de Dieu, je dis ça comme ça, mais je suis resté dans l'église. Et puis lui, à l'âge de l'adolescence, il a quitté l'église et il est allé loin dans ce que je pourrais dire dans la vie du monde, de ce que le monde pouvait lui offrir. Allant même jusqu'à, quelque part, être en contact avec des personnes vendant de la drogue. Et un jour, Dieu a fait grâce dans la vie de ce jeune homme, a touché son cœur, a touché sa vie et toute cette vie passée, tout ce qu'il avait, à savoir les filles, les copains, les camarades, la drogue, tout ce qui faisait partie de sa vie, il l'a laissé de côté. Et un jour, il m'a dit, Pierre, pour mon propre salut, je préfère couper les ponts avec certaines personnes. Alors, de prime abord, j'ai dit ça et j'ai trouvé ça raisonnable. J'ai dit, c'est bien. Si tu en as besoin, fais-le. Et si tu penses que c'est normal de le faire, fais-le. Et pendant des années, il a avancé avec Dieu. Je pense 2-3 ans, il a fonctionné avec Dieu. Et puis il a avancé jusqu'au jour où il a rencontré d'anciennes relations à lui. Et reprenant contact avec ces personnes, il s'est laissé embarquer dans des soirées. Il a revu des copines, il a revu une copine. Et puis il est tombé dans le péché. Et puis au fur et à mesure... Il venait à l'église, mais il était dans le compromis, alors il a préféré la fille. Et puis au final, il n'est plus du tout allé à l'église. Et aujourd'hui, il est loin de Dieu, et puis il est loin de mes contacts. Tout ça pour dire que on peut avoir différentes façons d'oublier. Et je crois que dans la vie de cet ami, certes, il avait fait et décidé de fuir certaines choses, fuir ses relations sans pour autant régler un problème profond qui était au fond de lui. Quand Paul nous invite à oublier ce qui est en arrière, il nous invite surtout à se déconnecter, à abandonner. Il nous invite à nous détacher. Parce qu'on peut être à distance sans pour autant avoir réellement coupé les ponts dans nos vies. On peut fuir les choses sans pour autant en être complètement détaché. À l'exemple de Jacob ou même à l'exemple de Joseph qui ont laissé le temps s'espacer entre le moment où ils ont vécu ce qu'ils ont vécu et le moment où Dieu permet que les choses remontent en surface dans leur vie. C'est pas réglé. Et pour mon ami, sans doute qu'il avait mis les distances avec ses relations, mais pour autant dans son cœur, c'était pas réglé. Tant et si bien que lorsqu'il rentre en contact avec ses relations, du fait que ce n'est pas réglé, du fait qu'il n'a pas mis la distance dans son cœur et qu'il n'a pas, il ne s'est pas séparé spirituellement de cela, il était encore lié. Personnellement, je crois que c'est ce que Paul veut nous dire lorsqu'il nous dit « oubliant ce qui est en arrière ». Il ne nous appelle pas à l'amnésie, il ne nous appelle pas à oublier notre passé, mais il nous appelle à nous en détacher, à nous en libérer. Parce que c'est là la vraie liberté à laquelle Paul nous appelle. C'est là ce que Paul veut voir dans nos vies, c'est ce qu'il veut voir germer dans nos cœurs. La vraie liberté, c'est en être complètement détaché. Paul, d'ailleurs, dans cet épître au chapitre 3, on a partagé, lorsqu'il mentionne les différents éléments de sa vie, il les met exprès en avant. Pour dire qu'il en est affranchi, libéré. D'ailleurs, lorsqu'il parle de sa vie passée, lorsqu'il parle du fait qu'il était pharisien, lorsqu'il parle de son implication dans la religion, il dit « Je regarde tout ça comme de la boue. Ce n'est plus moi tout ça. » Il en est détaché. Il s'est mis à distance de tout ça. Il en est affranchi. On pourrait discerner et voir différents aspects de ce que peut être oublié comme Paul l'entend. lorsque lui-même fait la description de son passé, lui-même pharisien, lui-même persécuteur de l'Église, on pourrait en tirer des enseignements pour nous. Je pourrais rentrer dans le détail de ce que Paul va dire à un moment donné. Il va dire « Je suis hébreu, né d'hébreu, pharisien, persécutant l'Église. » Vous savez, Paul a grandi dans un contexte particulier. Il a été formé dans une branche extrémiste. Il a travaillé auprès et il a été enseigné auprès d'enseignants de qualité. Et c'était un homme qui a été plongé dans le judaïsme depuis son enfance. Et vous savez, je trouve miraculeux que Paul puisse en sortir comme il en est sorti, parce que pour moi, Paul, c'est le champion de la liberté. C'est le protecteur de la liberté en crise dans l'Église. Et voyez le parallèle qu'on peut faire entre la vie de Paul, son passé, et ce qu'il est devenu. Paul, dans l'évangile, dans les épîtres à Galates, combat ce qu'il appelle lui-même les faux frères. C'est-à-dire des personnes qui ont un pied dans le judaïsme et un pied dans le christianisme. On pourrait se dire que Paul aurait pu très bien faire partie de ces personnes-là, tellement il a été imprégné de la religion juive. On pourrait se dire qu'à un moment donné, ça aurait pu ressortir dans son comportement, dans son enseignement, dans son attitude, dans ce qu'il a communiqué et partagé aux églises. Mais ce que j'aime chez Paul, c'est que rien de tout cela paraît. Paul est libéré de l'influence du judaïsme, libéré de l'influence du radicalisme, libéré de tout ce qui aurait pu l'entraver dans son ministère, au point qu'il en est devenu le champion de la liberté en Christ. C'est lui-même qui écrit dans Galates chapitre 5, « C'est pour la liberté que Christ vous a affranchi ». Moi, je suis émerveillé de voir la transformation que Dieu va faire, parce qu'il n'est pas sous influence de son passé. Lorsqu'il regarde à son passé, lorsqu'il regarde au judaïsme, à l'enseignement qui était associé, Paul va mettre en pratique ce qu'il dit. Oubliant ce qui est en arrière, je me porte en avant. Et qu'est-ce qui est en avant? La grâce de Dieu. Oui, oubliant ce qui est en arrière, Paul a fait la part des choses et il a plongé dans la grâce de Dieu. Oh! Plus de légalisme, il en était affranchi. Et il le dit même à l'Église, si Christ vous a affranchi, c'est pour la liberté. Alors, ne retombez pas dans le piège de quelque esclavage, entre guillemets, le légalisme, la religiosité. Oui, voyez, Paul n'était pas sous influence de son passé, au contraire. Il a abondamment plongé dans la grâce de Dieu. Je pourrais prendre un autre exemple de Paul et lié à son histoire. Lorsque Paul dit tout simplement « J'ai persécuté l'Église ». Paul a vécu quelque chose de remarquable dans sa vie. Il va être touché par la grâce. Et alors qu'un jour il montait pour persécuter, le lendemain il est touché par l'amour de Dieu. Quelques jours après, il va aller prêcher dans les églises. Jusqu'au jour, et je crois qu'à un moment donné dans la vie de Paul, ça a dû tilter en lui. Jusqu'au jour où, voulant rencontrer les disciples, ça va coincer. Parce que les disciples, ils avaient peur de Paul. Ou en tout cas, ils avaient peur de Saul de Tarse. Et je peux vous dire que Paul, sans doute, a dû percevoir ça de la façon suivante. Il est dans la grâce de Dieu, il est dans la plénitude de Dieu. À un moment, il dit « Waouh, je vais pouvoir rencontrer les apôtres, ceux qui ont rencontré le maître, qui ont rencontré Jésus, qui ont partagé sa vie pendant 3 ans. » Et là, personne ne veut le voir. Il y en a un qui va vouloir le voir. Vous savez ce qui va renvoyer à Paul? Ce qui va lui renvoyer, ce qui va lui être renvoyé? Paul, t'as persécuté l'Église. T'as fait du mal au peuple de Dieu. Tu l'as blessé, tu l'as meurtri. Tu étais d'accord, et tu as été d'accord pour l'assassinat d'Étienne. Tu montais à Damas pour décimer les chrétiens. Waouh, waouh, waouh. Vous savez, je pense que le ministère de Paul à ce moment-là, waouh. Vous savez, beaucoup de chrétiens peuvent vivre dans le même sentiment que Paul, vivre à un moment donné qu'a pu vivre Paul, la culpabilité. Je pense à quelqu'un, une dame que j'ai rencontrée, une personne que j'ai rencontrée qui refusait de rentrer dans les projets de Dieu, dans ce que Dieu avait préparé pour elle, parce qu'elle ne s'en sentait pas digne. Ouais, elle ne se sentait pas digne. Et lorsque un jour je discutais avec elle, elle me faisait part de sa frustration en me disant « Mais Pierre, j'aimerais louer le Seigneur. » Je lui dis « Mais qu'est-ce qui t'en empêche ?» Elle m'a dit, c'est compliqué. Bon, on va se voir, on va en discuter. Et lorsque j'ai discuté avec elle, lorsque j'ai partagé, elle commence à me raconter son histoire, tout ce qu'elle avait vécu. Et en effet, c'était lourd. Lourd au point qu'à un moment donné, elle-même se refusait de rentrer dans ce que Dieu avait préparé pour elle. Elle refusait, elle se brimait, elle refusait de louer Dieu, elle refusait d'ouvrir la voie, d'élever la voie, elle refusait de rentrer dans la vie de l'esprit. Elle se freinait à tous les niveaux dans sa vie spirituelle parce qu'elle ne s'en sentait pas digne. D'ailleurs, on retrouve une approche de Paul un petit peu du même genre. Lorsqu'à un moment donné, dans Corinthiens, Paul dit « Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre ». Je suis le moindre d'entre eux parce que j'ai persécuté l'Église. Mais si Paul en restait là, il n'aurait jamais rien fait de sa vie. Mais Paul va dire, et le verset qui suit dit ceci, « Mais je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. » À la culpabilité, Paul répond une chose très vraie. Et il répond cela, « Mais ce que je suis, c'est la grâce de Dieu. » Ce n'est pas par ma volonté ou parce que j'ai pu faire ou parce que mon passé est comme ça. Non, je suis une créature nouvelle en Christ. Et quand Paul dit « oubliant ce qui est en arrière », il y a certainement dans son esprit une partie qui dit « j'oublie aussi la culpabilité qui est en lien avec mon passé. » Parce que cette culpabilité peut m'empêcher d'avancer. Et combien peut-être au milieu de nous ce matin ou cet après-midi sont dans le même état de cœur en disant « Seigneur, j'en ai tellement sur ma vie ». Il y en a tellement, j'en ai tellement fait. Est-ce que tu peux encore prendre plaisir à te servir de moi? Vous savez, il y a une chose qui est glorieuse dans les Écritures, c'est que il y a un paquet de serviteurs de Dieu qui peuvent rougir de leur passé, de prophètes, d'hommes de Dieu qui pourraient rougir de ce qu'ils ont fait. Je pense à Moïse. Alors on voit Moïse en face de la mer Rouge, mais on oublie qu'avant de commencer son ministère, Moïse a tué un homme. On parle de Paul, mais lorsqu'on lit les Actes des Apôtres, Actes chapitre 9, dans les premiers versets, il nous est dit que Paul sentait encore la menace et le meurtre sur sa vie. Voilà, c'est une jolie carte de visite. Mais vous savez quoi, la grâce de Dieu va surabonder dans la vie de ces hommes, au point qu'ils vont en être des instruments de puissance, oubliant ce qui est en arrière. Je me porte sur ce qui est devant moi et je cours vers le but pour remporter le prix de la céleste vocation de Dieu en Jésus-Christ. Je voudrais juste terminer par une autre chose qui me paraît importante. Tout à l'heure, je parlais de Joseph, de son contexte, de ce qu'il a vécu, de ce qu'il a vu, ressenti. À un moment donné, lorsque Joseph va se retrouver en face de ses frères, je peux vous dire une chose, c'est que si nous savons la suite et nous connaissons l'arrière-plan et la pensée de Joseph, si nous nous positionnons à la place des 11 frères qui sont devant lui et des 10 en particulier qui l'ont trahi, j'en mènerai pas très large. Je me dirai au fond de moi, qu'est-ce que Joseph va faire de nous? Est-ce qu'il va se venger? Parce qu'il aurait très bien pu se venger. Rien ne l'empêchait. Ils étaient à la merci de Joseph. Et ce que j'aime vraiment dans ce passage, c'est que voilà ce que j'appelle oubliant ce qui est en arrière, Joseph va pardonner. Il va pardonner. Et finalement, je pourrais dire que Paul, en disant « oubliant ce qui est en arrière », bien Paul est en train de nous donner aussi une droite ligne, une direction précise quant aussi à la nécessité du pardon pour avancer. Oublier ce qui est en arrière, c'est aussi pardonner. Et ce que j'aime dans l'attitude de Joseph, c'est qu'à un moment donné, on arrive à un point culminant dans la Genèse, où à un moment donné, il se retrouve avec ses frères. Et la Bible nous dit qu'il ne peut plus retenir ce qu'il y a dans son cœur. Alors au point qu'il va dire à ses serviteurs de quitter la maison. Et lorsque les serviteurs vont quitter la maison, il nous est dit que Joseph va crier « Je suis Joseph, votre frère !» Il va crier tellement fort que ses serviteurs vont l'entendre, que même la maison de Pharaon va l'entendre. comme un cri de son cœur, de dire « Je veux oublier !» Je veux oublier ce que vous m'avez fait. Je veux oublier ce que vous m'avez fait subir. Je veux oublier le fait de m'avoir rejeté, de m'avoir jeté dans un puits, de m'avoir vendu. Je veux oublier parce que la grâce de Dieu a surabondé. Je veux oublier parce que j'ai besoin d'aller de l'avant. Parce que j'ai besoin que ma vie n'en reste pas là. C'est surprenant de constater que par moments, lorsque des circonstances comme ça dans nos passés sont dans notre passé et présentes, tant que ces choses-là ne sont pas réglées, on a l'impression d'être attaché. On a la volonté d'aller de l'avant. On a la volonté de franchir les étapes. On a envie de la volonté de faire comme Paul le dit, et me portant vers l'avant. Mais on a comme quelque chose qui nous tient en arrière. Et au lieu d'y aller et de se réjouir du projet de Dieu dans nos vies, on n'avance pas. On est maintenu assujetti. Joseph va oublier, il va se détacher, il va se libérer émotionnellement de son passé, il va s'affranchir de ce qu'il a vécu, il va décider, il va faire comme Paul le dit, oubliant ce qui est en arrière, c'est un choix. Alors vous allez me dire, oui, et je l'ai dit déjà tout à l'heure, on ne peut pas oublier, mais il y a une prise de position qui t'appartient ce matin de dire j'oublie, je veux oublier, je veux être... Suivez l'exemple de Paul qui me dit « Oubliant ce qui est en arrière et je laisserai la grâce de Dieu faire dans ma vie. » Parce que oublier, comme je l'entends, se détacher émotionnellement, arriver à aller de l'avant malgré tout, à franchir les étapes et à progresser, c'est un miracle divin. Mais il commence par celui qui dit « Je veux oublier. » Je voudrais inviter les musiciens à s'approcher. On va prier quelques instants, vous voulez bien. Esprit de Dieu, tu es au milieu de nous dans ce lieu. Et alors que nous avons les têtes baissées, Saint-Esprit, je t'invite à travailler dans les cœurs. Il y a peut-être des vies qui, à bien des égards, voudraient oublier. Et qui ne peuvent pas. Seigneur, viens à leur secours. Il y a peut-être des personnes qui refusent d'oublier, comme une position, comme une volonté de maintenir certaines choses de leur passé. Dieu t'appelle ce matin à oublier. Dissocie-toi de ça. Dissocie-toi de ce fardeau, de ce qui t'empêche d'avancer ce matin encore. Dans ton cœur, il y a des choses que tu maintiens en état, justement pour ne pas oublier. Tu l'as même dit dans ton cœur, je ne veux pas oublier. Oui, seulement c'est en train de te miner, c'est en train de te détruire. Et au lieu de rentrer dans le plan que Dieu a pour ta vie, tu es maintenu en arrière. Oh, tu souhaiterais, comme Paul le dit, te porter en avant et vivre les choses à laquelle Dieu t'appelle. Seulement voilà, tu es retenu en arrière. Tu refuses d'oublier. Tu voudrais oublier. Ce matin, dans tous les cas, tu as besoin de la grâce de Dieu. Tu as besoin aussi que Dieu t'aide à te positionner et être à l'exemple de Paul. Je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est devant. Seigneur, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Ce matin, ma prière, c'est que Dieu vienne poser son baume sur ta vie. Ma prière, c'est que tu sortes de ce lieu en ayant oublié. Alors, ce n'est pas une fuite. Non, on a vu que la fuite en avant ne servait à rien, ça nous rattrape à un moment donné dans nos vies, ça ressurgit. Mais ce à quoi Dieu t'appelle ce matin, c'est à oublier, te détacher. Ne plus être en lien avec ton passé, ne plus être assujetti à celui-là, ne plus être sous l'influence de ton passé, ne plus être lié à celui-ci dans tes décisions et dans tes choix de vie, dans les directions que tu prends. L'arrière, ce qui est derrière toi, a encore trop d'impact sur ton présent. Paul t'invite à oublier. Choisis de dire « j'oublie » pour avancer. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le prix. Saint-Esprit, tu es au milieu de nous. Et ce matin, alors que nous avons les têtes baissées, j'aimerais faire un appel, un court appel. Mais si je peux prier pour vous et avec vous, j'aimerais vous inviter à vous lever premièrement. Et signifier par cette prise de position en vous levant, vous êtes en train de dire à Dieu, je veux oublier. Je veux oublier. Je veux oublier ce qui est en arrière, Seigneur. Je veux oublier ce qui fait la guerre à mon âme dans mon présent. Oublier le sentiment de culpabilité. Oublier le mal qu'on m'a fait. Oublier ce qui peut m'empêcher spirituellement d'avancer. Parce que j'ai mis des freins, parce que j'ai une nostalgie, parce qu'il y a des choses que je refuse d'abandonner dans mon cœur. Des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu, mais qui sont encore présentes au fond de toi et que tu conserves au fond de toi. Oublie. Dis au Seigneur de t'en détacher ce matin. Lève-toi, prends position. Oubliant ce qui est en arrière. Coupe les liens. Coupe ce qui te maintient encore. Et rentre dans le projet de Dieu. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est devant. Je cours vers le prix. Seigneur, tu vois toutes les personnes qui se sont levées ce matin. Seigneur Jésus, j'aimerais vous inviter à faire un pas de plus. On a un peu de temps ce matin, j'aimerais vous inviter à vous approcher. Approchez-vous, venez, on va prier ensemble.